Trouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 juin 2014, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Au sommaire ce soir...
Le nord du Nigeria encore endeuillé. Cette fois, plus de 20 personnes ont été tuées alors qu'elles suivaient un match de la Coupe du Monde de football.
Incendie au ministère des Finances à Bangui. Le Premier ministre centrafricain parle d'un drame et demande l'ouverture d'une enquête.
C'est un drame. C'est un moment où notre pays traverse beaucoup de difficultés. Un moment où nous essayons de reconstruire notre administration.
En Irak, Bagdad demande l'appui de Washington pour freiner les djihadistes.
L'Afghanistan menacé d'une crise politique après le rejet du second tour de la présidentielle par l'un des candidats.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, aucun droit à l'erreur ce soir pour le Cameroun face à la Croatie.
La Croatie, on va les taper. Je vous dis, on va les taper. Quand la patrie est en danger, on doit bouger.
Définitivement, ce fan est très optimiste, Morgan. Sachez aussi que la Hollande s'est assurée une place au deuxième tour, pratiquement en battant l'Australie. Et tout à l'heure, l'Espagne va jouer son Vatu face au Chili. Et nous aurons de la musique pour terminer l'émission. D'abord, le journal.
Au moins 21 personnes ont été tuées dans le nord du Nigeria dans un attentat à la bombe sur un site où des fans de football regardaient un match de la Coupe du Monde sur grand écran. Nathalie Barge.
L'explosion mardi soir dans la ville de Damaturu a fait plus de 20 morts et au moins 27 blessés selon des sources hospitalières. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans un centre en plein air pour regarder sur grand écran le match entre le Brésil et le Mexique. Selon des témoins, une bombe apparemment cachée dans un taxi tricycle a explosé peu après le début du match. Damaturu est la capitale de Yobe, l'un des trois états du nord du Nigeria sous état d'urgence depuis la recrudescence d'attaques attribuées à Boko Haram. La semaine dernière, les autorités des états de l'Adamawa et du Plateau, craignant la possibilité de telles attaques, ont ordonné la fermeture des lieux de rassemblement prévus pour visionner la Coupe du Monde. Le groupe extrémiste Boko Haram a tué des milliers de personnes au Nigeria, notamment dans des attaques contre des écoles, des églises, des mosquées, des gares routières et autres lieux publics.
En République centrafricaine, un incendie a fait des dégâts importants au ministère des Finances et du Budget à Bangui. Une partie du bâtiment a pris feu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, provoquant la destruction de plusieurs documents importants. Le Premier ministre André Nzapayeke demande l'ouverture d'une enquête. Le point avec Félix Yepasis Zembro.
L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le feu a ravagé une bonne partie du bâtiment depuis le service des dépenses publiques jusqu'à la direction de l'exécution du budget. Plusieurs documents de finances, le mobilier et des outils informatiques sont partis en fumée. Le Premier ministre André Nzapayeke s'est rendu sur les lieux. Il parle d'un drame et demande l'ouverture d'une enquête.
C'est un drame. C'est un moment où notre pays traverse beaucoup de difficultés. Un moment où nous essayons de reconstruire notre administration. Mais il est important que vraiment une enquête approfondie soit menée, qu'on sache si c'est l'état du bâtiment. Il faut qu'une mesure urgente soit prise parce que bon, c'est un bâtiment qui date quand même de l'époque coloniale. Et compte tenu de son importance, il faut revoir tout ça. Les malheurs ne sont pas toujours une mauvaise chose. Des fois, ça nous permet aussi de prendre conscience.
Le département était resté paralysé toute la journée et le personnel n'y avait pas accès. En rappel, ces dernières semaines, le ministère a lancé une vaste opération de contrôle physique et du fichier de solde des fonctionnaires à Bangui et en province.
Et toujours en RCA, sachez que 5 Nigérians ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bangui. En provenance du Brésil, ils étaient en possession de 660 grammes de cocaïne pure destinée au marché européen. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Sécurité publique.
Au Rwanda, la journaliste Agnès Wimanankusi a été libérée après 4 ans d'emprisonnement. C'est ce que constate l'agence France-Presse. Elle avait été condamnée pour diffamation pour les articles critiquant le président Paul Kagame. La justice l'avait également trouvée coupable de négation du génocide, crime pour lequel elle a finalement été innocentée. « Je suis décidée à faire mon travail jusqu'à ma mort », a-t-elle déclaré. assurant qu'elle continuerait à écrire des articles critiques sur le gouvernement.
En Égypte, condamnation à mort de 12 partisans de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Ils ont été reconnus coupables du meurtre d'un général de police ou de violence lors d'un raid des forces de sécurité au Caire en 2013. On fait le point avec Lionel Gaïma.
23 personnes, dont 11 sont en fuite, étaient jugées au Caire, notamment pour appartenance à une organisation djihadiste. Elles étaient aussi accusées d'avoir participé à une riposte contre des commandos de policiers et militaires qui avaient investi un quartier de la capitale égyptienne le 19 septembre 2013, dans le cadre d'une sanglante répression visant les partisans de Mohamed Morsi, destitués par l'armée. Un général de la police avait été tué par balle et d'autres policiers et soldats avaient essuyé des tirs. 8 des condamnés à mort, dont l'homme qui était accusé du meurtre du général, sont en détention et 4 en fuite. Le verdict doit être confirmé ou infirmé le 6 août après l'avis du moufti d'Égypte.
L'Égypte et la Guinée-Bissau réintègrent l'Union africaine. C'est ce qu'annonce l'organisation panafricaine. L'Égypte avait été suspendue il y a près d'un an suite au renversement par l'armée du président Mohamed Morsi. La Guinée-Bissau, elle, avait été suspendue après le coup d'État militaire de 2012. Le seul pays qui reste suspendu de l'UA est la Centrafrique.
La Libye dénonce l'arrestation d'un de ses ressortissants par les forces américaines. Le gouvernement exige qu'Ahmed Abdou Katala soit jugé en Libye, responsable présumé de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Libye, soulignent les autorités. Le gouvernement parle d'une atteinte à la souveraineté de la Libye et précise que les autorités libyennes n'ont pas été informées de l'opération menée par les forces américaines.
Le statu quo ne peut pas durer au Mali, c'est ce qu'a déclaré le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsous. Il faut que les pourparlers entre Bamako et les groupes armés du Nord s'engagent immédiatement, a-t-il affirmé. C'est maintenant qu'il faut entamer des négociations de paix, a martelé M. Ladsous devant le Conseil de sécurité qui examine le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU au Mali.
13 Libériens condamnés à la prison à perpétuité pour mercenariat en Côte d'Ivoire. D'après l'AFP, qui cite une source judiciaire, cette sentence a été prononcée à Monrovia, capitale du Libéria. Les faits qui leur sont reprochés remontent à 2012, lors d'attaques meurtrières dans l'ouest ivoirien frontalier du Libéria. Un des assauts qui avait fait au moins 18 morts, dont 7 casques bleus nigériens, avait été attribué à des fidèles de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. La défense compte faire appel.
L'Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé compte plus de 330 personnes tuées par le virus. Les autorités locales signalent 5 nouveaux décès en Guinée, 4 en Sierra Leone et 5 au Libéria au cours de la semaine écoulée. Chiffre communiqué par l'OMS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement irakien demande l'appui aérien des États-Unis face à la rapide progression des djihadistes qui occupent des villes clés du nord irakien. C'est ce qu'ont révélé des responsables militaires américains. Les précisions de Michel Joseph.
Le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes américain, a dit aujourd'hui à une sous-commission du Sénat que l'Irak a requis des frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique en Irak et au Levant. Ces derniers ont attaqué aujourd'hui la principale raffinerie de pétrole du pays, à Baïji, localité située à 200 km au nord de Bagdad. En moins de 2 semaines, les insurgés ont pris Mossoul, la deuxième ville d'Irak, une grande partie de la province de Ninive, Tikrit et des pans entiers des provinces de Salahedine, Diyala et Kirkouk. Le gouvernement indien a fait état de l'enlèvement de 40 travailleurs indiens à Mossoul après la prise de Mossoul et dit n'avoir reçu aucune information des ravisseurs. Pour sa part, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que ses forces font désormais face aux assaillants après leur déroute au premier jour de l'offensive djihadiste lancée le 9 juin. Il promet de mettre en échec le terrorisme.
L'Afghanistan menacé d'une crise politique, ce après l'annonce faite aujourd'hui par le candidat Abdullah Abdullah qu'il n'a plus foi en la commission électorale et que le dépouillement des bulletins de la présidentielle doit cesser immédiatement. Dans une conférence de presse ce mercredi, il a dit avoir des preuves de graves irrégularités et accusé le président sortant Hamid Karzai de partialité. Son adversaire Ashraf Ghani a aussi fait état de fraude électorale. La commission a jusqu'au 2 juillet pour publier les résultats préliminaires du second tour.
Au Pakistan, une attaque présumée d'un drone américain a fait au moins 5 morts dans la région tribale du Nord-Ouest, près de la frontière avec l'Afghanistan. Les autorités locales font état de plusieurs tirs de missiles dans le Waziristan Nord, où se déroule depuis dimanche une offensive de l'armée pakistanaise. L'identité des victimes n'a pas encore été révélée. Les États-Unis font rarement des commentaires publics sur les attaques de drones au Pakistan.
En Ukraine, le président Petro Poroshenko a proposé un cessez-le-feu unilatéral pour les régions de l'Est dans le cadre d'un plan de paix global. Selon des agences de presse en Russie, M. Poroshenko a déclaré que la trêve permettrait aux séparatistes de déposer les armes et offrirait à ceux qui veulent quitter la zone de conflit la chance de le faire. Il a discuté du projet de cessez-le-feu hier au téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine.
Au moins 5 personnes sont mortes et 32 autres portées disparues dû au naufrage d'un voilier au large des côtes malaisiennes. Selon le Bureau de contrôle maritime de la Malaisie, une soixantaine de passagers ont été repêchés ou ont pu se sauver à la nage après l'accident ce matin dans le détroit de Malacca. 9 navires et un hélicoptère participent à l'opération de secours. On ignore les causes de ce naufrage.
Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington. Chez Ruben Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Maintenant, la partie magazine de notre émission.
Le Togo vient de valider un projet de code minier à l'issue d'un atelier qui s'est tenu à Lomé, Gabi.
Une soixantaine de participants venus d'horizons divers, entre autres l'administration, les industries extractives, la société civile et les collectivités des zones minières, ont pris part aux travaux. Écoutons le reportage de Kay Lawson.
Le Togo veut se doter d'un nouveau code minier. L'actuel vieux de 18 ans ne répond plus véritablement aux exigences de l'heure. Pour y arriver, un document a été élaboré et soumis à la validation. Le nouveau code minier a donc pour but de développer et d'encourager l'investissement minier au Togo, ce qui ne peut se faire sans les explorations, souligne le consultant Michel Durand.
S'il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de mine. Il y a d'autres préoccupations de la population concernant l'acceptabilité sociale, la consultation, et évidemment les retombées économiques pour le pays. C'est bien beau de demander aux investisseurs de venir investir, mais il faut que le pays aussi en tire profit, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des retombées économiques ou fiscales.
En termes de fiscalité, le document validé a intégré des dispositions dont nous parle Simon Chouinard. Il est fiscaliste.
En termes de fiscalité, il s'agit en fait d'avoir des dispositions qui ne feront pas en sorte de faire fuir les investisseurs. Si on n'a pas de mine, si on n'a pas d'exploration, il n'y a pas de retombées non plus pour le pays. Alors, il s'agit d'avoir un ensemble de mesures qui font en sorte que les promoteurs miniers soient présents. Alors, une fois qu'ils sont présents et qu'ils ont des projets et qu'ils ont des revenus, bien là, rentre en ligne de compte le juste partage de ces revenus-là avec le pays, avec les Togolais.
L'atelier de validation du nouveau code minier a vu la participation de la société civile togolaise. Basile Takba, président du Collège de la société civile, au sein de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Togo.
Notre présence à cet atelier avait un double objectif, celui donc de nous battre pour la prise en compte d'un certain nombre d'éléments en faveur donc de l'environnement, en faveur du développement des localités minières, mais aussi l'intégration de tout ce qui est exigence de l'ITIE, c'est-à-dire de faire publier un certain nombre d'informations, notamment les rapports issus donc des études d'impact environnemental et les programmes de mise en œuvre donc de ces études-là. Je pense que c'est un pas en avant dans le secteur minier et une victoire pour les populations des localités minières et pour l'ensemble de la population.
Après cette validation, la société civile togolaise planifie de faire des plaidoyers pour que le document tel que validé puisse être voté en l'état par le Parlement togolais afin de conserver les acquis en faveur de l'environnement et pour le développement des zones minières. Kailasan Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur La Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, C'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Parlons maintenant de l'arrestation en Libye du terroriste présumé Ahmed Abou Khatala, ce qui pourrait fournir des informations précieuses, Morgane, sur l'attaque du consulat américain de Benghazi.
Oui, quatre Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens, ont perdu la vie lors de ces événements du 11 septembre 2012. La capture de Khatala est considérée comme une victoire politique pour le président Obama. Mais de l'avis de l'un d'eux, la gestion de la crise de Benghazi restera une tache noire dans le bilan de son administration. Jean-Roger Billon.
Le président Obama est plutôt content. L'arrestation de Khatala envoie, selon lui, un message au reste du monde.
It's important for us to send a message to the world that when Americans are attacked, no matter how long it takes, we will find those responsible.
Lorsque des Américains sont attaqués, peu importe combien de temps cela prend, nous allons trouver les responsables et nous allons les traduire en justice.
Ahmed Abou Khatala, identifié comme un haut dirigeant du groupe terroriste Ansar al-Sharia en Libye, ne sera pas envoyé au centre de détention militaire de Guantanamo. Il sera jugé par une juridiction civile. Colin Clark, expert en contre-espionnage, espère que son interrogatoire préalable donnera de précieux renseignements sur ses complices.
What intel can be gleaned from the suspect?
Les renseignements doivent cibler les informations à tirer du suspect. C'est probablement l'une des meilleures chances des États-Unis, pour une fois, d'interroger une telle personne, d'avoir un peu plus d'informations et de recueillir des données plus détaillées sur ce qui s'assimile de plus en plus à un réseau terroriste.
Une opinion partagée au Congrès où une enquête est toujours en cours sur l'attaque de Benghazi. L'administration Obama, à l'origine, avait déclaré que l'attaque était le résultat de la diffusion d'une vidéo anti-musulmane avant de reconnaître qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Hillary Clinton, à l'époque secrétaire d'État, avait été accusée de n'avoir pas fourni une sécurité adéquate au consulat. Madame Clinton, candidate potentielle à la présidentielle de 2016, a dit se réjouir de la capture de Khatala. Pour elle, cela devrait aider à reconstituer ce qui s'est passé. Larry Sabato, politologue de l'Université de Virginie, explique que la capture de Khatala est certes une bonne nouvelle pour la Maison-Blanche et Mme Clinton, de même que pour les démocrates dans la perspective des élections au Congrès en novembre, mais il assure que cela n'aura pas d'impact majeur sur les audiences du Congrès en cours sur Benghazi, sauf à offrir aux démocrates quelques points dans le débat.
Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique avec Chérubin Dorsil
et Morgane Guiriec.
L'armée camerounaise a arrêté un trafiquant d'armes et découvert une grande cache d'armes dans un village situé près de la frontière du Nigeria. Ces armes appartiendraient à des combattants présumés de Boko Haram qui utilisent le nord du Cameroun comme base arrière. Le reportage d'Edwin Mokikinzeka à Yaoundé, présenté ici par Bagassi Koura.
La radio nationale camerounaise affirme que l'armée a découvert les armes dans le village de Blangoa suite à une dénonciation des villageois.
Cameroun's defense forces have uncovered and recuperated arms and ammunition.
Les forces de défense du Cameroun ont découvert et récupéré des armes et des munitions qui ont été enterrées dans un buisson dans le département du Logone et Chari dans l'extrême nord. Moussa Alamine, qui dirige l'infanterie dépêchée à Blangoa, pour rechercher et récupérer les armes, a déclaré à la Voix de l'Amérique que ces hommes n'ont récupéré qu'une partie seulement des armes.
Après une minutieuse recherche, les éléments du 34e bataillon d'infanterie motorisée découvrent 4 sacs bien emballés et enfouis sous terre, 35 armes de guerre, 31 chargeurs et 1218 cartouches.
Le Cameroun a récemment déployé ses troupes le long de la frontière nord-est du pays avec le Nigeria pour empêcher le groupe militant Boko Haram d'utiliser son territoire comme base arrière. Les responsables militaires pensent que ces armes peuvent avoir été enterrées par des combattants de Boko Haram dans leur fuite suite à une offensive de l'armée camerounaise. Moussa Alamine a confié aussi à la Voix de l'Amérique que les soldats ont arrêté un trafiquant d'armes qui ravitaille Boko Haram à travers le Tchad et le Cameroun. Il affirme que l'identité du trafiquant a été révélée par ses complices suite à un désaccord sur leur paiement.
Hadji Issiaka, 25 ans, de nationalité tchadienne, a été arrêté au poste de contrôle de Ouaza. En sa possession, 11 500 euros, soit 7 millions de francs CFA.
Le Tchadien en question a été transféré à Yaoundé de peur que Boko Haram n'attaque le poste militaire dans la région. Les armes découvertes, en revanche, ont été transportées à Maroua, capitale de la région camerounaise de l'extrême nord.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, dans Washington Forum, les insurgés islamistes marchent sur Bagdad et en réponse, les États-Unis envisagent un rapprochement avec l'Iran. Quelle solution après cette dernière crise politico-sécuritaire a frappé l'Irak? Envoyez-nous vos commentaires et questions sur la page Facebook Washington Forum. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h PU.
Et l'on danse, on chante, on attend le Cameroun, le journal de la Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes avec Bagassi Koura, ses invités et notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. On commence donc par ce match choc tout à l'heure entre l'Australie et les Pays-Bas. 3-2 pour les Néerlandais qui se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Néerlandais qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On trouve tout de suite notre envoyé spécial Nicolas Pino. Nicolas, bonsoir.
Merci.
Oui, les Pays-Bas se sont qualifiés, non sans avoir souffert.
Et oui, difficilement cette victoire. 3-2 contre les Australiens qu'on n'attendait pas. Appareil fait dans ce match, vous l'avez dit. Évidemment, l'arbitre y a été pour beaucoup sur ce pénalty imaginaire sifflé en faveur des Australiens sur une main bien involontaire des Pays-Bas. En tout cas, 3-2, les Pays-Bas ont su réagir, les Pays-Bas qui techniquement étaient au-dessus et les Pays-Bas qui sont presque qualifiés avec 6 points en 2 matchs. Il va falloir attendre le résultat d'Espagne-Chili qui se joue en ce moment même pour savoir si les Pays-Bas sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.
Et Nicolas, on voit les joueurs qui avancent sur l'aire de jeu. Comment est-ce que vous pensez que les champions du monde vont essayer de se rattraper?
Ça ne va pas être facile, en tout cas, Bagassi. La réaction est attendue, évidemment, après la claque subie 5-1. On va voir, puisque notamment Vicente Del Bosque avait tenu à maintenir sa confiance envers les champions du monde de 2010. Il a néanmoins titularisé Pedro et Xavi Martinez. On va donc attendre, car ça ne va pas être facile contre le Chili. Le Chili qui est dans la même configuration que les Pays-Bas. En cas de victoire ce soir, le Chili serait d'ores et déjà qualifié pour le prochain tour.
Voilà, c'était Nicolas Pino, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique au Brésil à la Coupe du Monde. Alors, la première journée de la phase des poules de la Coupe du Monde n'a pas réussi aux équipes africaines. Fait remarquer notre confrère Foot Africa 365. 4 en 5 matchs, une seule victoire chez Rubin pour un match nul et 3 défaites. Ce soir, le Cameroun joue son deuxième match et beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains gardent espoir comme ce supporter que Nicolas Pino a rencontré au Brésil.
C'est bien, les Mexicains nous ont humiliés. J'ai pris mon vol depuis Paris, là, je suis arrivé à Sao Paulo. Maintenant, j'ai pris un vol à Sao Paulo pour arriver ici, là. Il faut compter 3000 euros. L'équation, on va les taper. Je vous dis, on va les taper. Pour le Mexique, ça allait. J'ai rien dit pour le Mexique parce que je n'ai pas pris mon avion. Je ne peux pas prendre l'avion à Paris pour venir ici, là, pour voir le Mexique jouer. Mais là, là, quand la patrie est en danger, on doit bouger.
Voilà, on doit bouger et on va les taper. Parole de supporter camerounais qui vous fait sourire, Chérubin.
Oui, je souris parce qu'il dit qu'il a dépensé 3000 euros et j'espère qu'il va quand même essayer.
Capitaliser.
Justement.
Non, mais la confiance est quand même du côté camerounais. Hein, et on va écouter l'entraîneur de l'équipe de Garoua au Cameroun, Didier Gomez d'Arosa. Il pense que le Cameroun a les moyens de gagner ce soir.
Ben, la rencontre, c'est une rencontre couperée. Hein. Déjà, je crois que les Lions ont raté leur entame de Coupe du Monde. Je crois qu'il ne manquait pas grand-chose. Hein. J'ai vu cette équipe jouer contre l'Allemagne. Elle était très cohérente dans son organisation de jeu. Je crois qu'elle n'a pas su reproduire sa projection vers l'avant qui lui a fait rater son match contre les Mexicains.
Alors, certains disent aussi hein, que le football européen réussit mieux au Camerounais. C'est votre avis?
Bon, je sais pas. En tout cas, je l'espère fortement. Je crois que ce soir, la Croatie et a aussi un match couperet à disputer. Donc, ce sera un match très âpre, hein, puisque le perdant sera éliminé de la Coupe du Monde. Je crois que la Croatie a vraiment une très, très belle équipe aussi, qui est capable de mieux faire que lors du premier match, contre un Brésil qui est pour l'instant très moyen. Donc, je crois qu'on va assister à une rencontre de très bon niveau où chacune des deux équipes va vouloir aller vers l'avant.
Est-ce que l'absence éventuelle, c'est pas encore confirmé, de Samuel Eto'o ne pourrait pas être aussi un avantage avec un Vincent Aboubakar qui pourrait monter à l'attaque?
Ben, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont capables de très bien faire. Hein, aussi, Vincent Aboubakar, il y a Sali aussi. Je crois que cette équipe du Cameroun a vraiment des arguments à faire valoir. Je crois qu'elle est capable de reproduire ce qu'elle a fait contre l'Allemagne il y a une quinzaine de jours. Elle se qualifiera parce que je crois même qu'elle est capable de perturber cette équipe du Brésil.
Voilà, c'était donc l'entraîneur de Garoua, Didier Gomes Darossa. Voilà, vous l'avez compris, hein, on retrouve notre consultant Jules Valentin Gouet à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Voilà, et donc vous avez vu tout à l'heure l'Australie qui a failli stopper le momentum et la qualification des Néerlandais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais on s'est retrouvé dans un match où les Australiens ont tenu à faire un grand baroud d'honneur et ils y ont réussi. Malheureusement, l'équipe a un peu péché dans la naïveté. Et le match était favorable aux Australiens car ils s'exprimaient dans une opposition de style, dans un match où les styles sont semblables, le style anglo-saxon, un jeu direct physique et basé sur la vitesse. Et là, les Australiens, comme en deuxième mi-temps contre le Chili, ont montré qu'ils ont des qualités de réaction. Donc je crois que c'est un bon match pour l'Australie.
Voilà, et puis demain, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent également leur deuxième match, cette fois-ci contre la Colombie, une équipe très technique. Les deux pays ont remporté leur premier match, ce qui fait dire à Rigo Gervais, il est l'entraîneur du CW Sport au San Pedro, qu'on aura droit à un match très intéressant.
C'est le choc des deux leaders. Ce match va déterminer qui sera le véritable leader. Donc, ça vaut vraiment son présent d'or. Et puis, de deux, c'est que ces deux équipes qui sont bien offensivement, un match très ouvert. Et puis, il faut dire surtout que ce match qualifie directement en cas de victoire pour une équipe.
Alors, vous avez vu le premier match. S'il y a quelque chose qui devrait être changé dans l'équipe, ça serait quoi?
Bon, je pense que c'est. Bon, défensivement, c'est au niveau des choses, la correction au niveau de l'axe. Parce que le but que les Ivoiriens ont pris quand même, je pense que dans l'axe encore, il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout au niveau des couvertures. En attaque, c'est au niveau du finish. Parce que même s'ils ont marqué deux buts, ils ont gâché beaucoup d'occasions. Voilà, surtout en première mi-temps, je pense que c'est les deux aspects là qu'il faut vraiment corriger. L'axe de la défense ivoirienne est fébrile. Et puis, en attaque, la finition est encore mauvaise. Il faut avoir au moins 6 occasions avant de marquer un but. Je pense que quand le capitaine est rentré du jeu de bois, ça a changé. Mais il faut améliorer cela en tout cas.
Voilà, c'était donc Rigo Gervais, entraîneur du CW Sport, qui parlait donc du match des éléphants qui aura lieu demain jeudi contre la Colombie. C'est tout donc pour ce journal de sport. Je vous laisse Chérubin et Morgane.
Merci Bagassi. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas de nous laisser vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, en direct du Studio 13. À la présentation, c'était Chérubin Dorcil
et Morgane Guiriec.